Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 39, Sumba et la Passola. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et ça fait, c'est vrai, tout juste 2 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode dans l'émission. Je vous avoue que c'est pas forcément évident pour moi en ce moment de tenir le rythme. Il y a eu pas mal de voyages et c'est vrai que c'est pas facile de se poser et de vous publier un épisode très régulièrement. Mais comme vous le savez, je me concentre davantage sur la qualité. Et l'épisode d'aujourd'hui va, je pense, vous transporter une nouvelle fois dans une des îles de l'archipel indonésien qu'on avait quitté pour un moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Indonésie dans l'émission. Et pour ça, aujourd'hui, bien sûr, on va retrouver notre expert, Thierry Robinet, qui connaît l'Indonésie comme sa poche. Donc sans plus attendre, bienvenue dans cette île de Sumba, bienvenue dans la tradition de la Passola. Eh bien bonjour Thierry, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Eh ben bonjour Romain.
Bon bah écoute, ça fait comme toujours plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'émission. Et on va reprendre notre grand voyage indonésien. On a beaucoup parlé de l'Indonésie ensemble. On a passé du temps à Java, à Bali, à Sibérut, à Sulawesi également. Et on va découvrir une nouvelle des 13 677 îles, pas moins de l'Indonésie, l'île de Sumba, qui est située au sud de l'île de Flores. Flores, on a également fait une émission à ce sujet. Et c'est une île vraiment à part en Indonésie. Alors, il y a beaucoup d'îles qui ont leur propre identité, et celle-ci, elle ne déroge pas à la règle, parce que c'est une des îles les plus traditionnelles de l'Indonésie, avec un peuple qui voue un culte sans fin au cheval. On va voir pourquoi. Il y a un festival, notamment, qui s'y déroule chaque année là-bas, qui est vraiment, vraiment unique. Donc voilà, on va parler de Sumba. C'est pas forcément l'île à laquelle on pense en premier quand on pense à l'Indonésie, mais c'est peut-être une des curiosités les plus intéressantes du pays, que tu connais bien. Alors voilà, pour commencer, comme chaque fois, je te demande, parle-nous de comment toi tu as découvert Sumba la première fois et dans quel contexte.
Romain, Sumba, comme tu l'as dit, oui, tu as déjà tout dit, c'est ça qui est extraordinaire, donc finalement je vais reprendre un petit peu tes mots. Non, Sumba est une île extraordinaire d'abord, hein. C'est l'île la plus au sud, avec l'île de Tanimbar de l'archipel indonésien. Donc déjà, de par sa position, elle est différente. Quand on connaît, on en a déjà parlé, de volcanisme actif, quand on connaît les îles de la Sonde, les petites îles de la Sonde où il y a des volcans par dizaines, on va dire, notamment ce qui est le cas de Flores, dès qu'on est un peu au sud, parce que Sumba est quelques degrés, un degré au sud de Flores, ben, il n'y a plus un volcan. Par contre, c'est une île qui est assez où ça bouge un peu, comme toutes les îles indonésiennes, il peut y avoir des petits séismes. Et c'est une île rocher. C'est marrant, c'est un bloc. C'est un bloc qui est au milieu de la mer. Étant une île qui est complètement au sud, je dirais qu'elle a été un peu oubliée des routes. Pas de l'époque, parce qu'à l'époque, les Portugais, les Espagnols et ensuite le grand empire des Indes néerlandaises y sont passés, puisque c'était des îles comme Timor aussi, et toutes les certaines petites îles comme Sabu, Roté et Sumba avaient une richesse insoupçonnée, mais qui valait plus que l'or, c'était le bois de santal. Donc tout le monde sait ce que c'est que le bois de santal. Quand on va acheter de l'encens au bois de santal, les senteurs, quoi, c'est extraordinaire. Et un arbre de bois de santal, c'est extraordinaire. Donc ils ont tout coupé à Sumba. Donc une île qui était où la jungle et le bois de santal se partageaient, donc la totalité du territoire, Sumba a complètement changé, à part quelques poches où il y a de la jungle tout au nord. C'est une île maintenant de savane. Ça change, mais c'est une île extraordinaire, parce que quand on arrive en avion, et c'est pas très loin de Bali, en une heure et quart d'avion, et il y a des lignes régulières tous les jours qui vont à Sumba. Quand on débarque à l'ouest, donc à Tambolaka, qui est l'aéroport, un petit aéroport de campagne, mais qui est très joli. Quand on arrive juste, on va survoler des falaises et des plages. Déjà, on se dit, oh là là, c'est extraordinaire, parce que c'est de toute beauté. Des plages de sable blanc, comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc ça fait déjà envie. Et quand on regarde, pas d'immeubles, rien, que des maisons en chaume, quelques toits en tôle, on se dit, tiens, là, vraiment, on est au bout du monde. Ça, c'est génial. Donc, quand on arrive à Tambolaka, bon, on va filer sur Wekabubak, qui est le chef-lieu de la région ouest de Sumba. Et enfin, c'est pas que pour moi, c'est dans cette île, c'est la région la plus importante et la plus intéressante de l'île. Parce que c'est là où il y a les villages les plus traditionnels de Sumba.
Alors pourquoi, selon toi, ces villages-là, cette partie-là de l'île est la partie la plus intéressante ?
Donc on a des villages un peu forteresses, on va dire, qui sont cachés derrière des rideaux de bambou. Donc un peu comme les Toraja sous la Vésie, on ne les voit pas les villages. Ou alors on voit justement juste les toits qui dépassent au sommet, au-dessus des arbres. On se dit tiens, quelque chose, avec des toits en plus qui sont pentus comme ça. Et quand on arrive, on rentre à l'intérieur d'un village comme c'est la région de Kodi ou la région de Lamboya, on voit des maisons en bois mastoc. Extraordinaire, de type Toraja, on peut dire. Ça ressemble avec les cornes de buffle qui sont sur le mât central. Donc on dit, tiens, là on est dans une zone, on est en zone tribale. On est dans un culte de croyance animiste, alors qu'on est dans une île où finalement le christianisme est passé depuis longtemps, les Hollandais notamment, et les Espagnols, puisque une partie des gens, certains sont catholiques, et d'autres sont protestants. Mais le protestantisme a quand même plus pignon sur rue. Mais... c'est le cas de Wekabubak, par exemple, où là, bon, il y a beaucoup d'églises. Mais dès qu'on part dans la campagne, donc dès qu'on rentre dans la région de Lamboya, en passant des collines qui dominent la mer, on voit très loin, parce qu'avant, il y avait de la jungle. Maintenant, comme la jungle n'est plus là, ce sont des hautes herbes et ce sont des petits villages avec ces toits très, très élevés, comme ça, des maisons traditionnelles. Et lorsque, comme je disais, lorsqu'on rentre dans un village, bon, on est impressionné. On est impressionné par la statuaire, on est impressionné par le grandiose des maisons et les gens qui sont tous habillés. En général, ils sont en short, mais ils ont les tissus traditionnels qu'on appelle les ikats, qui sont des tissus bon, que tout un chacun porte au quotidien. Et surtout, le Sumba, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il y a deux choses qui le caractérisent, et de loin, c'est qu'il mâche le bétel, donc il a la bouche toute rouge, et il a un coupe-coupe accroché à la ceinture. Et qu'est-ce qu'il a pas loin ? Juste derrière la maison, son cheval. Donc Sumba, c'est ça, l'île des cavaliers. Village traditionnel, village forteresse, village qui ont une histoire de guerre latente jusqu'à aujourd'hui, entre villages très proches, et où chaque fois il y a des problèmes concernant des terrains, des rizières, une femme qui n'aurait pas été volée, mais qui aurait été empruntée, on va dire, qui peut poser des conflits d'année en année, sans qu'il soit vraiment résolu. Et surtout, bon, il y a un culte qui est important, c'est le culte du Merapu. Donc quand on est à Sumba, la première chose que l'on veut savoir, pourquoi les Sumba sont comme ça, pourquoi est-ce qu'ils vivent dans des maisons de type traditionnel, quelle est leur vie à l'intérieur, parce qu'ils suivent tous le culte du Merapu. Culte animiste où le personnage le plus important est le Ratu.
Voilà, alors justement, je voulais te demander, puisque ces villages et ce mode de vie est très traditionnel, il faut bien que quelqu'un soit là pour s'assurer que la vie continue dans la tradition. Donc, c'est quoi ce Ratu ? C'est un concept qui est assez particulier à Sumba, j'ai l'impression.
Le culte du Merapu est un concept unique à Sumba. Donc, le Ratu, c'est le Ratu roi, on va dire, quoi. Ce sont, on va pas dire des sorciers, mais quelque part, à la fois sorciers, hommes médecine, chefs de village. Pas vraiment chef de village, parce qu'il y a un chef quand même qui est désigné plus maintenant dans la tradition indonésienne, mais le Ratu, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide des cérémonies, c'est lui qui décide de ce qu'il faut faire. S'il y a une maladie, c'est le Ratu qui va mettre en place une cérémonie particulière pour gérer cette maladie ou pour guérir. Donc voilà, donc ça c'est important. Et les Ratus sont plus importants que la police ou le gouvernement. Les gens du village, ils vont pas voir les policiers quand ils ont un problème, ils vont voir les ratous. On s'assoit dans la maison, assis, on commence à sortir le bétel. Bétel, source de vie. Vous ne pourrez jamais rentrer dans une maison de Sumba, jamais, sans vous asseoir d'abord, avant de parler. On va vous regarder. Là, pour la première chose, le gars, il va sortir les noix de bétel. Vous êtes obligé d'en manger. si vous ne mangez pas du bétel, même si vous aimez pas, et en général on n'aime pas, vous faites pas partie du, vous êtes mal considéré. Donc à Sumba, sachez-le, quand vous y allez, il faut manger le bétel. Bon, c'est pas si mauvais que ça, c'est un astringent. Il y en a qui disent que ça défonce un petit peu, ça fait tourner la tête. En tout cas, c'est un coupe-faim. Parce que dans ces régions de Sumba, les gens sont assez pauvres et malgré le riz qui pousse quand même dans la campagne, les gens n'ont pas une alimentation très, très équilibrée malgré tout. Donc le bétel. Après, quand vous êtes assis, donc, vous avez les personnes qui sont là, vous avez les ratous qui sont devant vous et qui vont vous demander ce que vous voulez. Alors vous, vous amenez des cigarettes aussi, c'est important. Si vous n'avez pas de cigarettes, c'est pas la peine de venir. Et vous amenez du café aussi. Et après, on vous demandera peut-être, ah tiens, il faut ramener du sucre la prochaine fois que tu viens. Donc c'est tout un concept. Donnant, donnant. Vous lui demandez quelque chose, lui, il va vous donner quelque chose. Il va vous donner le bétel et il va vous répondre à vos questions. Donc il est normal que nous, quand on arrive dans une maison, on s'assoit, on amène quelque chose. C'est souvent un peu comme ça dans toute l'Indonésie, mais on aurait tendance à l'oublier. Et surtout dans les zones traditionnelles, tribales, je vais dire, parce que Sumba, c'est quand même pas mal tribal. Ça a son importance, vous pouvez pas imaginer. Donc voilà, donc le culte du Merapu, il a pour fonction justement de disséquer et de trouver des solutions aux problèmes où, par exemple, s'il y a une maladie, où il y a un mort, donc ça veut dire qu'il y a des mauvais présages et tout. Donc le Merapu est là justement pour balayer tout ce qu'il y a. Et il faut trouver s'il y a des voleurs ou s'il y a quelqu'un qui a fait un mauvais acte dans le village. Donc on va y se rachatier suivant la loi divine locale. Voilà, ça c'est important.
Donc en gros, chaque village a son ratou ou c'est par région, comment ça fonctionne ?
Les villages ont tous leur ratou. Alors il y en a qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, il faut voir aussi que dans Sumba Ouest, il y a deux régions qui sont importantes. C'est la région de Lamboya, trois je dirais. La région de Lamboya, la région de Wanokaka, la région de Gaora et la région de Kodi. Qui sont vraiment des gros villages, surtout Kodi et Lamboya. Des régions, et de tout temps, depuis des siècles, ils se faisaient la guerre. Donc chacun se bagarrait. Étant dans une société tribale, il y a des cérémonies où il y a des choses qui se passent qui sont tribales. Et Sumba a peut-être l'un des, festivals, parce que maintenant c'est devenu un festival, mais a une des joutes les plus extraordinaires peut-être de l'Indonésie, c'est la Pasola. Donc la Pasola, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le combat des cavaliers. C'est deux clans qui se rencontrent chaque année, en général au mois de février. Donc voilà. La Pasola a toujours lieu après les moissons. Donc c'est important parce que pendant les moissons, travailler dans les rizières et tout, ça demande du travail. Donc les gens sont occupés, ils ne peuvent pas s'occuper d'autre chose. Donc après les moissons, là, et juste avant de repiquer le riz, parce que le riz, quand on sait comment ça se passe, c'est dès qu'une une culture est finie, on va remettre, c'est un petit moment en jachère, et puis après on va reprendre les buffles, on va aller travailler la rizière, on va mettre de l'eau, et on va repiquer le riz. Donc c'est cette période-là, où justement on prépare ce qu'on appelle le richa, on amène des buffles dans une partie de rizière, donc un terrain, et on lâche les buffles. Et derrière, il y a 10-20 personnes avec des bâtons qui tapent sur les buffles et qui les font tourner dans tous les sens. Je peux vous dire qu'au bout d'une heure, le terrain, il est, mais alors, prêt, il n'y a plus un brin d'herbe et tout, on dirait un lac. Donc voilà, c'est presque prêt à être planté. Et moi, je me souviens d'ailleurs d'une anecdote, j'avais fait un film avec Christian Carembeu, champion du monde de football, la France, 1998. Et Carembeu était là-bas pour l'émission Planète. Et c'était au village de Galowunta, parce que j'ai un grand copain qui s'appelle Jawu Kalaga, on va y revenir. Et Jawu, quand on est arrivé dans le village, Christian, il savait pas. Moi, je préparais, j'étais dans l'organisation, donc je m'occupais de l'organisation du tournage, des idées, etc. Mais on avait mis au point plein de séquences, comme toute émission de télévision, avec le réalisateur, machin. Puis quand on est arrivé à Galowunta, Jawu Kalaga, qui est un copain de longue date, il me dit, mais non, moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Et il n'avait rien compris en plus ce qu'on voulait, parce qu'il n'était pas dans la télé. Mais il a pris Christian, lui a dit, hey, tu viens avec nous, on va préparer un terrain de rizière. Alors on est parti, on a suivi. Et je me souviens, il avait enlevé ses chaussures. Christian, puis il courait partout dans la boue, avec les buffles derrière, des fois qui lui fonçaient un peu dessus. Mais il s'était bien débrouillé. Et après, on était remonté au village. Il était tellement content de ce que Christian avait fait. Jawu Kalaka, il avait organisé un combat de boxe qui font partie aussi des joutes traditionnelles des jeunes quand ils passent de l'âge d'adolescent à l'âge adulte. Donc, ils doivent faire des combats. Mais ils se mettent des pains, hein. Ça rigole pas. Ils se mettent des grands coups de poing et tout. Et Christian avait participé. Donc, tout le village était venu. Il y avait 10 villages alentours qui étaient venus et tout. Et il y avait même, je me souviens, un gamin, alors que Sumba, ils ont tout juste pas, ils ont pas la télé. Dans les villages comme ça. Il y en avait un qui l'avait reconnu, il avait dit « Toi, je te connais, je t'ai vu à la télé. » C'était rigolo. Voilà, donc, pour parler de cette passola. Et ça, c'était avant la passola. Donc, quand le moment de la passola arrive, c'est le moment le plus important de Sumba. Donc, les gens ont préparé le riz, ont préparé les terrains pour planter le riz de chat. Et là, la passola arrive. Donc, les ratous sont importants. Et dans la région de Lamboya, c'est peut-être celle que je connais le mieux. Je connais, il y a le village de Jawu Kalaka, qui est chef de Galo Bunta, et au-dessus, il y a le village de Sodan. Sodan, c'est le village des ratous, des rois, des plus grands ratous de tout Sumba Ouest. Et quand on monte dans ce village, là qu'on va discuter et tout, petit à petit, les secrets se dévoilent. Le ratou va nous montrer dans une petite maison de style Sumba qui paye pas de mine comme ça sur le haut du rocher, des tambours qui sont à l'intérieur d'une pièce. Et puis quand tu sais de quoi est faite la peau du tambour, c'est pas commun quoi, puisque la peau du tambour est faite de la peau du dos des esclaves. Et des esclaves dans Sumba aujourd'hui encore, il y en a beaucoup. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand on va se balader dans les villages, petit-fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'esclaves, tu seras toujours dans le village où tu es. Bon, maintenant, les gens sont libres, hein, ils vivent, mais ils seront toujours au service de quelqu'un du village. Ils n'ont pas le droit d'avoir des terres, ils n'ont pas le droit d'avoir des animaux, ils n'ont pas le droit d'avoir rien du tout. Donc, ce sont un peu comme des serfs. Ils travaillent, bon, ils sont quand même payés un peu maintenant quand ils travaillent, mais ils sont quand même toujours esclaves. Ils sont toujours en bas de la hiérarchie.
Et ça, tu penses, c'est quelque chose qui va disparaître avec le temps ou c'est vraiment ancré dans la tradition et dans 50 ans, on dira encore qu'il y a, comme tu dis, des esclaves à Sumba?
Tu sais, Romain, moi, je vais à Sumba depuis, je sais pas, bientôt 30 ans. C'est vrai que maintenant, dans les rues, on voit plus de voitures. C'est normal, l'île a quand même évolué, l'aéroport a évolué aussi. Mais quand je vais dans les villages, ça n'a pas changé. Les gars sont à cheval, ils ont le coupe-coupe, ils mangent le bétel, et la tradition est là. Quand la passola arrive, le culte du Merapu, et aussi il y a une autre cérémonie, le Wulapodou, qui a lieu aussi, je crois que c'est 6 mois après la passola, où là, ils avaient dans les villages, il y a l'arbre des crânes. Donc avant, il n'y a plus de crânes maintenant, mais quand ils faisaient la guerre, ils coupaient les têtes. Donc c'était des coupeurs de têtes, ils coupaient les têtes de leurs ennemis, ils accrochaient toutes les têtes dans des arbres. Un arbre spécial au milieu du... Enfin, la fête de Wulapodou est très importante aussi. Alors est-ce que dans 50 ans ça existera encore? Je pense que oui. Les ratous n'auront pas disparu. Après reste à savoir comment l'Indonésie, est-ce que la passion animiste de ces ratous, parce qu'ils sont quand même sont des durs, ils n'ont pas envie d'être dirigés par le chef de la région ou les militaires, mais est-ce que cette passion animiste elle va prévaloir par rapport aux ordres gouvernementaux? Ça, j'en suis pas sûr du tout. Voilà.
Alors revenons, si tu le veux bien, à la passola, plus en détail, voir un petit peu comment ça se passe. C'est clairement le plus grand événement de l'île, et la plupart des gens, des touristes, je pense, vont à Sumba en grande partie pour voir une passola. Donc ça se passe en février. Tu l'as dit, c'est un combat entre deux clans. Donc ça m'intéresse déjà de savoir si c'est un vrai combat dans le sens où il y a une vraie rivalité, un vrai problème à régler, ou c'est juste pour le show, entre guillemets. Et puis explique-nous, voilà, en détail, comment ça se passe. Comment le combat a lieu, et puis je pense que tu as pas mal d'anecdotes à nous partager sur des mésaventures qui te sont peut-être arrivées ou à des collègues. Donc voilà, raconte-nous un petit peu la passola en détail.
La passola, elle est bien vivante. Hein. Donc chaque mois de février, il y a la passola de Lamboya tout d'abord, suivie 2 jours après de la passola de Kodi, qui est à l'autre bout de l'île mais toujours à l'ouest. Ça c'est au mois de février. Au mois de mars, il y a 2 passolas encore. Il y en a une à Wanokaka et une à Gaora. Donc il y a 4 passolas. La plus grande, c'est celle de Lamboya et celle de Kodi. Mais Lamboya, moi, c'est celle que j'aime le mieux parce qu'elle est sur son plateau, elle domine la mer, l'environnement est grandiose. C'est un moment important. La veille de la passola, les ratous partent du village de Sodan Je les ai suivis. Une fois, j'étais avec Bernard, mon copain de la télé, on faisait un film justement sur les cavaliers. On les suit pendant plusieurs kilomètres, on suit la rivière, à plein d'endroits, ils s'arrêtent, ils posent des offrandes de noix de Bethel, jusqu'à arriver à la mer. Là, c'est la fin de la journée. On va passer la nuit au bord de la mer, derrière des rochers. Là, toute la nuit, les gamins vont faire de la boxe. Donc ils s'enroulent les poings avec des morceaux de tissu et ils se mettent des pains comme tu peux pas imaginer. Ils se font mal, mais c'est des costauds. Ce sont des costauds les Sumba, c'est incroyable. Au petit jour, les ratous sont prêts. En plus, ils ont des chapeaux particuliers avec des comment on appelle ça. On pourrait ça monte sur leur tête. C'est assez extraordinaire. Ils vont aller au bord de la mer. Le jour se lève et ils vont chercher. Ils vont marcher au bord pour ramasser les nialés. Les nialés, ce sont des vers marins qui arrivent à marée basse pendant la pleine lune, donc du mois de février, apportés par la marée. Donc les nialés sont des vers qui sont cassants, mais qui sont verts, qui sont de couleur verte. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Je sais qu'il y en a aussi à Lombok ou à Coutabiche dans le sud, il y a des gens qui vont ramasser les nialés. Mais depuis quelques années, il y en a de moins en moins. Est-ce que c'est dû aux pollutions? Est-ce que c'est dû peut-être au changement climatique? C'est bien possible. Mais bon an, mal an, il y a eu des années où ils en ramassaient à la pelle, des pleines mains, et d'autres années où quand même il y en avait. Il est important qu'il y en ait quelques-uns quand même, parce que les ratous vont regarder les nialés, ils vont les étudier, ils vont regarder s'ils sont cassants, s'ils sont bien portants, ou s'ils sont de couleur, de belles couleurs, ce qui veut dire qu'il y aura de belles récoltes. Donc la lecture de ces nialés pour les ratous est très importante, ça veut dire les récoltes vont être bonnes à l'année, il n'y aura pas de maladies, etc., et tout se passera bien, et la passola va bien se dérouler. Donc le matinée arrive et d'un seul coup on voit les cavaliers qui arrivent sur les plages. Puis les plages là-bas sont immenses, sable blanc et tout. On voit des groupes de cavaliers qui arrivent à fond. Mais ils montent sans selle les gars. Donc les gamins depuis l'âge de 5-6 ans, on les voit monter comme des fous à toute vitesse. Et on arrive au-dessus, après que les ratous, on monte sur le terrain où va se dérouler la passola. Et là déjà il y a tout le public qui est là. Toute la région est là, des centaines, milliers de personnes qui sont là. Alors qu'est-ce que la passola? Passola, donc, c'est le combat des cavaliers. Textuellement, ça veut dire jet d'un javelot sur un adversaire. Donc ça ne rigole pas. À l'époque, la passola, deux camps étaient l'un en face de l'autre, souvent deux villages qui ont toujours été ennemis. Actuellement, c'est toujours Lamboya Atas et Lamboya Bawa. Bawa, ça veut dire bas. Lamboya Atas, c'est le haut. Donc c'est Sodan contre Kadengar ou tous ceux qui sont dans la plaine. Et avant, ils se battaient avec des vraies lances. Donc vous imaginez un groupe de, par exemple, 40 cavaliers d'un côté, 40 cavaliers de l'autre, même plus hein, parfois. Donc qui, tour à tour, ou par groupe de 2, par groupe de 4, par groupe de 6 ou plus, foncent sur l'ennemi qui est en face. Enfin, c'est l'ennemi. Ce jour-là, c'est l'ennemi. Il n'y a pas d'amis, là. Hein. Et ils balancent les lances. Donc quand une lance vous touche, une vraie lance, ben vous êtes transpercé. Donc aujourd'hui, c'est interdit, rigoureusement interdit. On est quand même si Sumba est quand même animiste et retiré du monde, c'est fini tout ça. On ne fait plus la guerre comme ça. Mais on a remplacé ces lances par des javelots à bout recourbé plus ou moins. D'accord ? Mais je peux vous dire que moi qui ai fait X passola, quand il y a un jet de javelot, parce qu'ils ont une force inouïe, ils savent jeter le javelot, qui vous arrive en pleine tête, alors que vous êtes à cheval au galop, à chaque passola, moi j'ai vu au moins un mort, ou un blessé grave qui était emmené, parce que maintenant il y a quand même une ambulance qui est dans le coin, on l'emmène, le gars il est mort. Ou alors on le soigne et il y a du sang partout. Et quand on est touché, alors celui qui a touché son ennemi, alors là, on le voit pas parader avec son cheval qui tourne comme ça, avec toutes les femmes qui ululent, on va dire, comme les femmes algériennes dans le désert au Sahara, ou même les femmes papous font ça aussi quand il y a la grande fête à Ouamena. Il devient un héros, le gars. Alors par contre, pour le gars qui est blessé, bon, s'il est mort, c'est terminé. Celui qui a tué, qui a pas voulu le tuer en fait, mais qui cherchait quand même à l'attraper, lui il aura rien, la police va rien lui faire, puisque de toute façon c'est une joute, c'est d'un commun accord, que tout le monde est d'accord pour, on sait que c'est un jeu dangereux, et que ma foi, s'il y a des blessés ou des morts, ça fait partie de la passola. Donc la famille du mort ou la famille du blessé, pas très contente, donc il faut attendre un an. sur la prochaine passola pour réparation du préjudice. Autrement, il n'y a aucun préjudice. Réparation du préjudice, ça se fera sur le champ de bataille. Alors la passola, comme je le disais tout à l'heure, c'est le combat de deux villages. Avant, c'était des vrais combats de guerre, parce qu'ils se faisaient la guerre. J'ai parlé de l'arbre des crânes, j'ai parlé du dos des esclaves. Donc les esclaves, ils venaient d'où ? Ils venaient pas des îles voisines, parce que les gars, c'était pas des marins. Les gens de Sumba sont tournés vers la terre. La mer, ils en ont peur, parce que la mer, d'abord, dans toutes ces îles-là, quand il y a des tempêtes, c'est terrible. Et la mer, c'est le domaine du on ne sait pas ce qu'il y a dessous, des démons, des grosses créatures. Donc on est tourné vers la terre. Donc on se bagarrait avec ce qu'on voyait à côté de soi. Donc c'était les villages environnants. Aujourd'hui, c'est plus un cas de guerre. Mais moi je sais, parce que je suis resté assez souvent avec Jawu Kalaka de Galowunta, qui est l'Amboya Atas. Jawu Kalaka m'a toujours dit, eux en bas, là, que ce soit Kadengar ou d'autres villages, on n'est pas copains. Ça va, on passe en mobylette maintenant, on va acheter des cigarettes à tel endroit, on va acheter du bétel, mais c'est pas nos copains. Donc, on attend la passola pour, excusez-moi du terme, pour leur foutre sur la gueule, quoi. Hein, on va y aller, on va leur montrer qui c'est les meilleurs. Et ça reste dans la passola. Alors moi, j'ai des anecdotes aussi où, Bernard, le fameux Bernard Guérini, que j'ai accompagné sur des tas de reportages en Asie, pour des 52 minutes, pour des chaînes privées ou des chaînes de télévision françaises, il s'était mis avec sa bêta-cam là, sur l'épaule, et puis on essayait de s'approcher le plus près des cavaliers. Donc tous les cavaliers qui sont sur le bord, bon là, il n'y a pas de problème, la loi de la passola ne va pas leur tirer dessus, on se bagarre quand on est dans le champ de bataille. On n'a pas le droit d'attaquer sur le bord même les spectateurs. Et puis avec Bernard, on s'avance. Alors moi, j'étais derrière parce que je faisais le son. Lui tenait caméra. Puis d'un seul coup, il y a une charge. Les cavaliers qui nous viennent dessus parce qu'on était bien avancés. Et le mec, il jette son javelot. Le javelot tape sur la bêta-cam, sur le haut de la bêta-cam, mais à 2 centimètres de la tête de Bernard. Mais s'il l'avait pris en pleine tête, je pense qu'il voyait pas, il aurait pas vu ce qui lui arrivait. Donc c'était fou et ça a ricoché comme ça. Et là, on est parti, on a vite reculé parce qu'on a compris que c'était dangereux. Et moi, je me souviens sur une émission sur les cavaliers, pour la 5, il y avait un photographe animalier. Et un passionné de chevaux, donc il faisait des photos que de chevaux. Donc lui, la passola, il était comme un fou. Il courait en plein milieu de la passola, en plein milieu des cavaliers, ça tirait dans tous les sens. Ben, il n'avait pas peur. Et il a fait des photos extraordinaires, mais il y allait. Je me suis dit, ben lui, il a une chance inouïe. Et je pense qu'il était tellement dans son sujet, ben, rien ne pouvait lui arriver. C'est là que j'ai compris que Thibaut, c'était quelqu'un quand même qui était particulier. Et pour finir sur ces moments particuliers, quand il y a, dans les spectateurs, quand il y a un clan qui est pas content, parce que l'autre clan, par exemple, a gagné ou a touché quelqu'un, un cavalier de l'autre clan a touché quelqu'un, il se jette des pierres. Et moi, j'ai vu passer au-dessus de ma tête mais des cailloux assez énormes, et ça devient des bagarres dans le public. La police, surtout ces dernières années, la police sort à chaque fois. Là, cette année, ça va être pareil. Ils tirent à la mitraillette en l'air pour arrêter les jets de pierre, parce que là, il peut y avoir beaucoup de blessés. Donc, c'est quand même un combat. C'est comme les jeux du cirque. Hein, c'est comme à Rome, là. Et ça, c'est unique en Indonésie.
Mais alors, l'Indonésie étant une république et l'Indonésie se modernisant, est-ce que tu trouves, est-ce que toi tu penses que c'est encore normal de garder ces traditions-là qui sont très anciennes, mais qui font, comme tu le dis, chaque fois que tu y allais, un mort ou un blessé grave? Est-ce que le pays continue à observer ces traditions et à les respecter, ou est-ce que tu penses que aussi ça va disparaître?
C'est pas facile de répondre à cette question parce que d'abord ça fait partie des traditions. Donc en Indonésie, de ce que j'ai vu par expérience, il faut conserver les traditions parce qu'elles sont les humains, elles sont les humains des îles, quoi. Donc je veux dire que la passola, oui, doit être conservée. Le gouvernement tient à la conserver parce que maintenant, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est devenu, je veux pas dire une destination touristique. Parce que la passola, quand il y a 15 touristes, c'est bien tout. Hein. Donc finalement, il n'y a personne à Sumba. Mais malgré tout, on en parle. En plus, Sumba est en train un petit peu de changer parce qu'il y a des étrangers qui viennent acheter des terres. Parce que vous avez des terrains qui valent rien du tout et des plages de rêve. Donc, quand on veut son paradis au bout du monde, Sumba en fait une des destinations privilégiées. Surtout avec des gens animistes autour qui vont vivre une autre vie, vous avez l'impression vraiment de changer de monde. Mais le gouvernement, c'est sûr que s'il y a des bagarres et que s'il y a beaucoup de morts, ça changera peut-être un petit peu la face des choses. Mais à mon avis, non, moi, là, je pense que la Passola va continuer. Elle a de beaux jours devant elle. C'est devenu un tournoi qui fait partie de la tradition indonésienne. Et comme dans beaucoup d'îles, en Indonésie, la tradition, c'est quelque chose qui perdure et qui sera difficilement délogeable. Même si l'Indonésie se modernise à grande vitesse, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais Sumba, c'est loin, c'est encore loin.
Et on l'a dit, le cheval tient une place vraiment importante dans la Passola et dans le quotidien de ces gens à Sumba. Et il faut signaler aussi que visuellement, la Passola, c'est un vrai spectacle, puisque ces chevaux, ils sont décorés, ils sont vraiment mis en valeur par leurs cavaliers. Parle-nous un petit peu de la manière dont ça se passe et de ce cheval, qui est quand même un pur sang arabe en plein milieu de l'Indonésie.
Et oui, comme tu dis, les chevaux sont des purs sangs arabes, donc ils sont issus d'un commerce venant d'Arabie au départ, via les Indes, et des Indes ont atterri dans les îles de la Sonde par les commerçants. De toute façon, c'est comme ça. Peut-être que c'était à l'époque du bois de Santal, ça, il n'y a pas d'écrit là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des chevaux purs sangs arabes, de petite race, mais qui ont la pêche, comme on dit, quoi. Très nerveux et fabuleusement décoré le jour de la Passola. Donc les crinières sont décorées, on leur met des harnais, ils ont des clochettes sur la tête et avec des couleurs et tout ça. Donc ça leur donne en plus aux chevaux quelque chose, une âme. L'éveil de la Passola, le cavalier, donc il sait qu'avec son cheval, il va aller dans cette Passola. Donc, c'est des moments, mais un mois avant, même plus, on entretient son cheval tous les jours, on le promène et tout, on le brosse, il est propre, on lui parle, on le décore, on lui met ça. Des fois, les chevaux ne se laissent pas faire. On le prépare à la Passola. Donc, l'homme se prépare aussi, parce que moi j'ai vu, il y a des gamins qui ont peur, hein. Il y en a les jeunes quand c'est leur première Passola et qu'il va falloir qu'ils cavalent en plein milieu de la Passola et qu'ils vont passer au milieu des javelots, c'est pas évident. Alors le cheval lui aussi, il est costaud parce qu'il des jets de javelots, ils en prennent plein les chevaux, des fois en pleine tête. J'en ai vu une fois dans l'œil aussi, donc les pauvres. Alors devant les yeux aussi, ils ont des je sais pas comment on appelle ça, oui, en cuir pour leur protéger les yeux. En plus, c'est très coloré, comme les personnages. Et puis, c'est le jour où tout le monde sort les icates, quoi. Comme je parlais, ces tissus qui sont uniques dans ces petites îles de la Sonde. Le single icate ou le double icate. Donc, en plus, à Sumba, avec tous les motifs de chevaux décorés dessus. Motifs royaux, motifs du culte du Merapu. Donc, cette passe-là est absolument extraordinaire. Alors, encore une fois, un endroit de plus, je dirais. C'est encore un endroit, mais qui à chaque fois me fascine. Moi, j'aime le monde tribal. Donc, j'ai toujours été fasciné. Je suis fasciné par plein de monde, mais le monde tribal, l'animisme a toujours eu, je sais pas, quelque part, une force en moi. Parce que ces gens-là, ils sont tels quels, voilà. Ils sont bruts de brutes et ils ont des croyances qui sont liées directement à la nature. Donc, quelque part, c'est palpable. Et leur culte, voilà. Bon, même si parfois ça peut paraître un peu particulier pour nous qui sommes quand même des gens beaucoup plus modernes, ces vieilles traditions ancestrales, bah, elles ont une force énorme. Et puis c'est tellement visuel. Aller une Passola, c'est aller à la rencontre des gens de Sumba.
Et voilà encore une belle découverte d'une nouvelle île sur cet immense archipel indonésien. Alors tu l'as dit, c'est à 1 heure de Bali seulement, donc facile depuis l'île des Dieux, 1 heure d'avion, et puis passer peut-être 4 à 5 jours là-bas pour découvrir un petit peu cette île, comme tu l'as dit, une des plus traditionnelles de l'Indonésie, avec voilà la découverte des villages traditionnels, de ces ratous, et de cette tradition du Merapu. Et puis si vous y allez au bon moment, participer à une Passola, en gardant bien vos distances, hein, vous l'aurez compris, ça peut être assez dangereux. Voilà, donc une belle découverte. Est-ce que tu aurais pour conclure quelques petits conseils pratiques à donner au niveau voilà d'hôtellerie, d'endroits sympas où rester ?
Ben, à Sumba, comme c'est en dehors des routes touristiques, on va dire, c'est vrai qu'il y a peu d'hôtellerie. À Tombolaka, bon, il y a un hôtel. Moi, j'aime bien l'hôtel Manandang à Wekabubak, qui est la capitale de district. C'est un vieil hôtel, mais qui est très bien tenu. On y mange très, très bien. Et bon, la région de Lamboya, là, par contre, il y a un hôtel, l'hôtel de Quicksilver, qui est au bord de la mer, puisque c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais Sumba est extraordinaire pour ses vagues. Alors vous avez des vagues qui sont fantastiques, il faut être un bon surfeur déjà pour se mesurer aux vagues de Sumba. Et là-bas il y a un hôtel de Quicksilver mais qui est privé, donc il faut pas s'adresser, faut pas aller devant le portail pour dire tiens je pourrais prendre une chambre. Non non, faut s'adresser directement à Bali où ils ont leur bureau et s'il y a de la place, bon vous pourrez y aller. Sinon il y a près de la Passola aussi, il y a un petit hôtel qui est très sympathique, qui domine la plage. Et ces immenses étendues sauvages. Donc pour moi, Sumba, quand vous voulez vous y balader, on trouve même pas de moto. C'est pas simple de louer une moto pour dire tiens, je vais partir à l'aventure, parce que en moto ça serait extraordinaire. Mais il y en a pas. Donc il faut louer une voiture avec chauffeur, obligatoire. C'est pas très cher et les chauffeurs ils connaissent tout ça par cœur. Et vous partez comme ça, vous perdre entre Kodi, Lamboya et Gaora. Où vous verrez des villages extraordinaires cachés derrière des bambous, où vous verrez des plages fantastiques de sable blanc, quelques villages de pêcheurs, des gens qui vont à cheval. Le cheval, d'abord, fait partie de la vie au quotidien. Et n'oubliez pas d'amener du bétel à chaque fois que vous êtes invité dans une maison. Donc vous passez vite fait au petit marché, vous prenez quelques noix, vous verrez, les gens sont les plus heureux au monde, parce qu'il n'y a que ça qui compte. C'est plus important d'amener du bétel que d'amener un billet de 10 000 roupies. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à toi Thierry pour cette énième découverte d'un joyau indonésien. Et on te retrouvera très bientôt. À bientôt, merci.
Ok, merci Romain. À la prochaine.
Nous voilà au bout de ce nouvel épisode sur l'Indonésie en compagnie de Thierry Robinet, que je continue à remercier du fond du cœur pour sa contribution déjà considérable dans l'émission. Déjà 18 épisodes, pas moins, où il nous a transportés dans différents coins d'Indonésie et d'Asie. Et je peux vous dire que ce n'est pas près de finir, donc voilà, c'est une bonne nouvelle si vous êtes sensible à ces histoires. L'île de Sumba, à n'en pas douter, c'est un lieu de choix si vous souhaitez aller à la rencontre d'une autre Indonésie, loin des routes courues de Bali par exemple, même si Bali reste pour Thierry et moi un véritable coup de cœur. Il est vraiment bon d'aller découvrir d'autres îles passionnantes comme celle de Sumba. Et pour retrouver les notes de l'émission, une seule adresse comme d'habitude, sur lesroutesdelasie.com/39. Un petit mot aussi pour dire que vous êtes maintenant exactement 700 personnes à suivre la page de l'émission sur Facebook. Merci beaucoup pour votre fidélité et surtout continuez à en parler autour de vous et à laisser des commentaires. C'est vraiment la meilleure manière de faire vivre l'émission. Aujourd'hui, ce commentaire pris sur iTunes de la part de Jipnus et qui dit « Très bonne émission, réalisée de façon très professionnelle. Cette émission nous fait voyager en Asie, que l'on soit chez nous ou sur les routes. J'aime vraiment le principe et j'espère qu'il sera encore renouvelé. Merci beaucoup à toi Jipnus, sincèrement content que le concept te plaise. Et oui, il va continuer d'être renouvelé comme tu le dis. Allez, je vous ferai pas attendre aussi longtemps pour le prochain épisode. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous reviendrons en Indonésie, avec Thierry Robinet toujours, à la découverte de la culture Batak dans le nord de la grande île de Sumatra. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.